Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Bien, le monde va célébrer demain, le 4 février, la journée internationale des luttes contre le cancer. Alors, en République démocratique du Congo, on signale que les cancers du sein et du col de l'utérus constituent les deux types de cancers les plus fréquents chez la femme. D'après les informations reçues et selon les experts, beaucoup de femmes souffrant de ces cancers sont dépistées à un stade tardif, ce qui complique la prise en charge médicale. Alors, comment lutter efficacement contre ces deux types de cancers? Docteur Manko Ibadjoki est médecin, chef des services d'oncologie, le service qui s'occupe du cancer à l'hôpital général de Kinshasa. Docteur, quel état des lieux vous faites aujourd'hui du cancer du sein et du col de l'utérus dans notre pays, et particulièrement dans la ville province de Kinshasa?
Oui, je pense que nous nous trouvons dans une situation que je puis dire que c'est très 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 délicate parce que la plupart de nos malades viennent souvent très très en retard, presque au stade terminal. Mmh. Et en ce moment-là, vous êtes désarmé et vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Mais en réalité, ça fait partie, ça tient compte de notre culture. Par expérience, je vois même des femmes intellectuelles. Quand elles constatent qu'elle a une nodule au niveau de son sein, la première chose, elle parle avec ses copines ou sa mère, et la réaction chez nous, si vous allez à l'hôpital, on va vous amputer les seins. Elle prend peur.
Elle a peur et elle ne part pas à l'hôpital.
Non, elle ne part pas à l'hôpital, elle se cache. Et 6 mois ou 12 mois, 18 mois, maintenant, le cancer a évolué. Et comme le cancer a une propriété de lancer les métastases, c'est-à-dire d'envahir d'autres organes cibles, en ce moment-là, quand il arrive, il n'a pas que le cancer de sein, il a des métastases, soit au poumon, soit au niveau du foie, soit au niveau du périnée.
La maladie s'est répandue dans tout le corps.
Oui, oui, c'est comme ça, le cancer. Mmh. Et dans notre service, je crois que quand vous êtes dans un service de gynéco-obstétrique, là, les services d'oncologie de ce département-là, ils estiment qu'ils ont beaucoup de cancers du col utérin. Et nous, en médical, on nous intéresse pour aller faire la chimiothérapie. Soit la chimiothérapie pré-opératoire, c'est qu'avant d'opérer, nous préparons le malade, ils opèrent et nous terminons par la chimiothérapie. Soit nous faisons une chimiothérapie palliative, c'est-à-dire on est à un stade où nous ne pouvons pas espérer une guérison, mais un soulagement pour le malade.
Alors, docteur, parlons d'abord du cancer du sein. Quelles sont les causes de ce type de cancer et quels sont les signes?
Oui, je puis dire que les causes du cancer du sein ne sont pas tout à fait évidentes. Mais je puis parler peut-être que ces cancers, souvent, d'autres ont une origine génétique. C'est-à-dire, les porteurs de ces cancers-là sont prédisposés génétiquement à faire ces cancers-là. Et d'autres même prennent des allures familiales et liées au sexe. En ce qui nous concerne, je crois que la première chose, c'est la femme qui constate une nodule au niveau de son sein. C'est-à-dire, une boule dure.
Au niveau du sein.
Au niveau du sein, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il constate qu'il y a quelque chose et elle doit consulter. D'autres constatent tout simplement qu'au niveau du sein, le sein commence à sécréter de liquide. Nous dirons séro-sanguinolent qui ressemble un peu à du sang. Mmh. Et la femme doit s'inquiéter et consulter. En dehors de ces deux signes, il y a la douleur. La douleur au niveau local.
Oui.
Elle sent que maintenant elle a mal à ce niveau-là. Et en ce moment-là, elle doit consulter pour qu'on dise si c'est ça ou pas. Mais toute nodule ou toute boule au niveau du sein ne signifie pas cancer. Ça peut aussi signifier une tumeur bénigne, souvent nous appelons adénofibrome. Donc ça n'a pas l'allure maligne que nous appelons le sein. Là aussi, on peut enlever et ça ne revient pas.
Voilà, donc les causes, vous dites que ça peut être héréditaire.
Oui, oui.
Mais souvent, les causes génétique. Ne sont pas très, très bien connues.
Non, génétique, non. Hein. Non, non. Oui, c'est génétique.
Voilà. Et lorsque la femme vient à un stade tardif, docteur, à ce moment-là, la prise en charge, vous avez dit, est un peu difficile. Mais y a-t-il un examen que la femme peut faire régulièrement pour savoir si elle a ou pas la maladie?
Oui, nous conseillons de temps en temps. Mais au niveau des médias, nous n'avons pas suffisamment d'émissions qui nous permettent de vulgariser cela. La première chose, c'est la femme elle-même. Parce que la femme se lave chaque matin elle doit palper ses seins et peut constater qu'il y a quelque chose d'anormal. Deuxièmement, maintenant, on a quand même un peu de facilité, on peut faire l'échographie des deux seins. L'échographie, je pense que ça ne coûte pas très cher, mais peut-être notre pouvoir d'achat qui pose des problèmes, parce que en fait, l'échographie doit coûter entre 35 et 50 dollars. En dehors de l'échographie, maintenant nous avons la mammographie. Maintenant, vous pouvez avoir la mammographie en Galiema, à Mamayemo, au CKR et à Kassavubu. Je crois que les appareils sont là. Et ça, ce sont les moyens de dépistage pour le cancer du sein.
La mammographie, comment ça se fait exactement?
La mammographie, c'est aussi un examen qui utilise les rayons X. C'est comme nous faisons la radiographie, mais ça, c'est spécialisé pour les seins. Oui. Donc, en réalité, on prend réellement seulement l'image du sein, seulement le sein, et on met ça sur un plateau et on prend cette image-là directement. Et ça donne des renseignements qui permettre d'abord au radiologue ou à l'imageur de vous dire qu'il a constaté des éléments ou il confirme directement c'est le cancer du sein. Je dis c'est pas ça.
D'accord. Est-ce que ces appareils, vous avez cité quelques hôpitaux ici à Kinshasa qui ont des appareils de mammographie. Est-ce qu'il en est de même dans les provinces?
Dans les provinces, je n'en connais pas. À ce stade-ci, je n'en connais pas. Peut-être l'hôpital du cinquantenaire de... Comment on appelle ça? Du cinquantenaire de Kisangani qui viennent d'être bien rééquipés, je pense. Mais à l'intérieur, nous n'avons pas d'appareil de mammographie.
À Lubumbashi?
Non,
à Lubumbashi, il n'y a pas.
À Lubumbashi, non. À Lubumbashi, nous avons même une carence de médecins imageurs. Vous savez qu'il y a une grande université et que nous n'avons pas de professeurs à former les gens sur le plan de l'imagerie médicale.
Voilà, donc ça c'est un problème sérieux, docteur.
Oui, c'est un problème sérieux parce que dans notre pays, on ne sait pas, comment nous disons, programmer. On ne sait pas programmer la formation des jeunes médecins pour voir dans l'avenir comment on peut fonctionner. On ne peut pas parler des hôpitaux provinciaux, des références, alors que la plupart de ces hôpitaux ne sont pas équipés, mieux équipés.
Voilà. Comment lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus chez la femme? Au Capi-Service, je reçois aujourd'hui Dr Manko Ibadjoki, médecin, chef du service d'oncologie à l'hôpital général de référence de Kinshasa.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20, et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Comment lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus, docteur? Nous avons quelques auditeurs qui nous appellent. Edgar Lokamba est à Kananga, Ismaël Mumpo est à Lubumbashi, Ogi Mendelo à Kikwit. Edgar Lokamba, bonjour.
Bonjour, Denis Daniel.
Alors, quelle est votre question?
Oui, je dis, j'ai plutôt une contribution parce que la question aujourd'hui est de savoir quelles sont les stratégies efficaces de lutte. Alors, chaque fois que Radio Capi organise une émission en rapport avec le cancer du sein, les invités ont toujours recommandé aux femmes l'autopalpation des seins ce qui est une bonne chose parce que ça permet le dépistage plus ou moins précoce de la maladie. Je ne sais pas, peut-être, comme l'a dit notre invité, faute de temps, ils ne disent pas réellement ce qu'il faut faire en rapport avec cette autopalpation des seins et les femmes qui est la stratégie accessible à toutes les femmes. Voilà pourquoi, si vous me permettez, je vais très rapidement résumer à l'attention de nos jeunes filles et mamans la technique de l'autopalpation des seins qui se résume en six petites questions aujourd'hui.
Alors, vous êtes médecin, Edgar?
Je suis étudiant en médecine.
Étudiant en médecine?
Oui, je dis.
Alors, rapidement, qu'est-ce
qu'il
faut faire?
Alors, la première question, c'est qui peut faire l'autopalpation des seins? C'est toute femme de plus de 30 ans. Quand faire l'autopalpation des seins, c'est 10 jours après le début de menstruation ou des règles. La troisième question, combien de fois faire l'autopalpation? C'est 2 fois tous les 6 mois ou 4 fois tous les 3 mois. Ou le faire à domicile devant le miroir. La cinquième question, c'est comment le faire? La femme doit être torse nu, bras baissés, mains aux hanches et on passe à l'inspection, regarder les deux seins attentivement. Puis, vous levez les mains pour commencer à palper à la recherche de nodules, comme l'a dit notre invité, ou d'un écoulement anormal non physiologique. Mm-hmm. Et la sixième question à faire, pourquoi faire après? Si la femme constate la présence d'une anomalie ou la suspicion d'un cancer, il faut directement aller au centre de santé le plus proche ou bien voir les spécialistes. Voilà en résumé la technique de l'autopalpation que nous connaissons jusque-là aujourd'hui. Et puis, pour terminer, les études menées ont démontré que le cancer du sein devient palpable après 10 ans, c'est-à-dire avec une taille d'un centimètre. À la taille d'un centimètre, environ 3 milliards de cellules cancéreuses sont déversées dans la circulation toutes les 24 heures.
Edgar,
dont a parlé notre invité. Oui, je termine jeudi.
Oui, Edgar
a ceci. Oui, jeudi.
Oui, vous dites que le cancer du sein est visible après combien d'années?
Après 10 ans, le cancer devient visible après 10 ans, c'est alors qu'elle devient palpable. C'est-à-dire à 10 ans, le cancer atteint la taille d'un centimètre. Et puis à la taille d'un centimètre, environ 3 milliards de cellules cancéreuses sont déversées dans la circulation toutes les 24 heures. Ce qui justifie les métastases à distance dont l'invité a signalé. Et puis, regarde à ceci, il y a lieu vraiment de se demander à quoi alors servira l'autopalpation. C'est pourquoi je pense que la stratégie efficace serait l'organisation des campagnes de dépistage des masses par les gynécologues. Donc, ça demande vraiment que les structures sanitaires soient dotées
d'accord.
des moyens conséquents, ce qui n'est pas encore le cas, comme l'a dit notre invité dans notre pays.
Merci Edgar. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oui, je pense que mon jeune frère étudiant en médecine a bien parlé, mais ce n'est pas évident les 10 années-là. Parce que d'expérience, nous avions déjà reçu, ce sont des cas qu'on dit exceptionnels, parce que ces jeunes filles-là n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité. Et notre malade, le moins âgé, avec un cancer du sein, c'est l'âge de 6 ans. Donc, elle n'a pas vécu 10 ans. Donc, l'âge de 6 ans, et dans un premier temps, nous avions pensé aussi à la théorie pour dire que c'était un adénofibrome, mais quand on a fait la biopsie, nous nous sommes rendus compte que c'est effectivement un cancer du sein, un carcinome canalaire.
Une fille de 6 ans.
6 ans, oui. Pour votre information, je suis très content parce que cette fille est encore vivante et vit en Italie. Donc, à l'époque, nous avions eu la chance qu'elle a été prise en charge par une ONG italienne et elle vit jusqu'à aujourd'hui. Donc, la théorie, il faut la lier à la pratique. Quand nous parlons d'autopalpation, l'autopalpation, c'est la femme elle-même qui palpe ce sein. Ce n'est pas un examinateur qui palpe le sein. Pourquoi? Parce que chaque jour, la femme à un âge avancé, elle doit laver ses seins correctement. Sinon, avec la chaleur, tout ça, ça doit dégager une odeur qui n'est pas agréable, tout cela. Donc, chaque matin, chaque jour, le malade, la femme, en se lavant, palpe ses seins. Et c'est comme ça qu'elle-même doit constater que j'ai senti quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, elle va vous aider. Quant au reste, je pense qu'elle a bien parlé pour aider le jeune femme à suivre.
Il a dit qu'il faut le faire 10 jours après les règles.
Non, si la nodule est déjà là, vous allez faire ça 10 jours après les règles, pourquoi? Oui, on dit tout simplement que c'est favorisé par les taux d'estrogène un peu plus élevés, donc les hormones féminines. Mais en réalité, quand la nodule est là, vous n'allez pas attendre les 10 jours après les règles. Parce que la nodule est là.
Elle est déjà dans la nodule. Ismaël Mompoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Tacham. Bonjour à l'invité qui parle comme Paul Moula de Mujimar.
Comment ça, vous faites des comparaisons? Allez-y, tout droit à la question, Ismaël. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, moi, je vais parler sur le cancer du sang que l'homme en médecine, il a laissé. Je demanderai à l'invité comment
le cancer de quoi?
Remarquer que cette personne a pu développer le cancer du sang, soit la leucémie.
Et Ismaël, Ismaël,
oui.
La leucémie, c'est pas le cancer du sang?
Bien sûr que oui.
Alors vous parlez de quoi? Du cancer du sein, cancer du sang?
Je parle d'abord du cancer du sein, en plus je vais contribuer pour le cancer du col et du sein.
Alors soyez bref parce qu'on n'a pas assez de temps. Quelle est la passée directement à la question?
Oui, la première question c'est de savoir, juste quand celui-ci est attaqué par ce cancer, quels sont les signes valables dont on peut suspecter envie d'amener un enfant, soit un adulte, dans une unité de soins. La deuxième préoccupation était de savoir si on utilise le traitement, c'est-à-dire on va utiliser que la chimiothérapie. Avec la chimiothérapie, on peut utiliser pendant combien de temps et ce traitement peut avoir des succès pendant combien d'années. La deuxième de préoccupation sur le cancer du sein et du col était de savoir le corps de la femme aujourd'hui est dû par exemple à des différents bouts. Maintenant, si on suspecte, comment la femme peut savoir que ce que j'ai développé ici, c'est un cancer du sein? Et quelle est la forme du mamelon pour savoir que la femme ou la fille a développé le cancer du sein? Merci beaucoup.
Bien, merci. Ogui Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, bonjour, je salue aussi notre invité.
Quelle est votre question?
Oui, je dis. Je sais que le temps nous fait l'écho. L'invité, lorsqu'il parlait des causes, il a aussi souligné l'héréditaire. C'est par là que je commence ma première question parce que j'en ai trois. Est-ce que dans une famille où les femmes souffrent du cancer depuis les ancêtres, même après bon traitement, toute génération de cette famille-là pourra continuer à en souffrir ou comment? Et la deuxième question, notre invité a parlé du bout de sein, c'est pourquoi je lui pose la question de savoir est-ce que tout bout de sein doit être obligatoirement le cancer ou comment? Et pour finir, monsieur, je dis ma troisième question est de savoir. Une femme peut être attaquée par le cancer à partir de quel âge exactement? C'était là mes trois questions, M. Jeudi. Bon type de programme et bon début de semaine à toutes et à tous ceux qui sont branchés.
Merci bien. Merci bien. Alors, docteur, vous avez la parole.
Oui, bon, je commencerai par dire que toute boule au niveau du sein n'est pas synonyme d'un cancer. J'avais dit qu'on peut trouver les adénofibromes où? Nous appelons ça des tumeurs bénignes qu'on peut enlever et c'est pas les cancers. Et ensuite, quand vous demandez l'hérédité, non. J'ai parlé que à une origine génétique, c'est-à-dire ça se trouve sur le gène de chromosome d'un être humain. Cela signifie que ça se transmet. Il ne faut pas dire que quand les grands-parents et tout ça, non. Ça va se manifester au moment où le croisement va se faire que un des parents amène un allèle qui dispose au cancer du sein et l'autre parent en amène aussi. Parce que nous avions trouvé dans trois générations de grand-mère, mère, fille ayant fait le cancer du sein. Cela signifie que il y a les hommes nés de cette famille-là sont porteurs de cet allèle-là. Mais eux, ils ne font pas les cancers. Ce sont les femmes qui font les cancers du sein. Ça, c'est un. De deux, le cancer du sein, ce n'est pas seulement pour les femmes. Nous avons des hommes qui présentent aussi des cancers du sein. Chaque année, à Kinshasa, nous sommes en moyenne entre 12 et 15 hommes par an que nous recevons dans ces conditions.
Qui ont les cancers du sein.
Avec les cancers du sein. Quand vous parlez du traitement, quand nous découvrons les cancers du sein tout au début, la chirurgie seule suffit. Quand on parle d'un cancer in situ, c'est-à-dire le cancer est bien localisé, la chirurgie seule suffit.
Quand pour extraire la cellule malade.
Oui, la chirurgie seule suffit. Et il faut avoir un bon chirurgien qui a l'expérience oncologique pour faire une bonne chirurgie et ça part. Sinon, si nous arrivons au stade 2 ou au stade 3, nous sommes obligés de faire d'abord la chimiothérapie préopératoire et la chirurgie, et nous terminons par La chimiothérapie post-opératoire.
Chez la chimio, c'est quoi les médicaments? Vous donnez des produits?
Nous donnons les médicaments qu'on appelle des cytostatiques, c'est-à-dire des médicaments qui bloquent la multiplication anarchique de ces cellules-là. Et ça, c'est...
Deuxièmement, il semble que ces médicaments ont des effets secondaires, la personne perd les cheveux.
Mais les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est universel, c'est comme ça. Donc, immédiatement, il y a des troubles digestifs qui sont nausées, vomissements et parfois de diarrhée. Après, vous allez voir que le malade perd les cheveux tombent de partout, au niveau de la tête, au niveau des aisselles, au niveau du pubis, tout ça tombe. Vous allez constater que les ongles et les paumes de main se noircissent un peu. Donc ça, ce sont les effets et d'autres effets qui sont biologiques parce que les cytostatiques que nous utilisons peuvent agir sur la moelle des os, provoquer des anémies ou des aplasies médulaires. Donc il faut avoir tout cela pendant les traitements pour que vous orientiez bien votre traitement. Sinon, vous-même, vous amenez le malade à la mort.
Et à quel moment vous passez à la radiothérapie?
La radiothérapie dans des pays où sont très équipés, c'est pour des tumeurs solides et bien délimitées. Alors, en ce moment, chez nous, on ne les fait pas. Mais, dans d'autres pays, après la chirurgie, on fait la chimiothérapie. Souvent, la chimiothérapie vient après la chirurgie. Mais la radiothérapie vient après la chirurgie. Mais chez nous, nous n'avons pas ça et nous sommes limités.
C'est quoi? C'est des appareils où on bombarde les cellules cancéreuses?
Oui, oui, ce sont des appareils où on bombarde les cellules cancéreuses. Il y a même... comment on appelle ça, type de scaphandre, où on met le malade là-dedans, et que quand on a préparé la radiothérapie, ça s'est fait la veille, on a déjà l'image. Quand le malade entre, on sait déjà, là, on doit bombarder. On rappelle seulement cette image, on bombarde.
Mais il semble que parfois, ces cellules se reproduisent, malgré la radio, les cellules cancéreuses peuvent encore revenir de force.
Oui, oui. Les récidives sont fréquentes dans les cas de cancer, pratiquement dans la plupart des cancers. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, comme l'étudiant du Kassai avait dit, c'est-à-dire il y a déjà des cellules cancéreuses qui sont éparpillées, qui vont dans des organes cibles. Alors, vous avez les cancers du sein, alors que ce cancer du sein a déjà lancé des métastases, par exemple, au niveau du foie.
Il touche alors, d'autres organes du corps.
D'autres organes. Alors, quand vous bombardez au niveau du sein, les cellules qui sont au niveau du foie ne sont pas concernées. Ça, c'est la différence entre la radiothérapie et la chimiothérapie. La chimiothérapie, vous envoyez une molécule qui doit attaquer les cellules cancéreuses dans l'organisme entier. Ok? Donc, ça circule dans la circulation générale, ça attaque. C'est pourquoi on prépare la chirurgie de cette manière afin que nous avons un peu une idée que nous avions peut-être, je dis peut-être parce que ce n'est pas toujours évident, que nous avons éliminé les cellules cancéreuses qui circulent, ils restent dans la masse. Alors, quand le sujet va enlever la masse, nous allons encore refaire la chimiothérapie pour éliminer d'autres qui restent.
Donc, on coupe le sein, on fait l'ablation du sein de la femme?
Je crois que les femmes hésitent pour rien. Parce que c'est un organe qui est déjà malade, et c'est un organe qui va rester dans son organisme pour garder la maladie dans son corps. La meilleure façon de faire, c'est de l'extirper et de le jeter.
Comment lutter contre le cancer du sein du col de l'utérus? Nous avons deux auditeurs en ligne, Mme Inaku depuis Siro et Alphonse Boudril depuis Arou.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Et même Inaku, vous êtes à Isiro, en province orientale, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Et on parle aujourd'hui du cancer, du sein, du col de l'utérus. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, c'est à peine que je suis cette émission. Malheureusement, je n'ai pas suivi les premiers discours de l'invité. J'aimerais savoir si cette maladie-là est héréditaire, contagieuse ou comment. Et la deuxième question de savoir, a des milliers d'euros, il n'y a pas de spécialiste dans ce domaine-là. Et que peut-être la personne meurt alors que la maladie était guérissable. Et à ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
D'accord. Docteur Mankoy.
Oui. Je pense que sa préoccupation est tout à fait fondée parce que à l'intérieur, mais nous avons des médecins, nous avons du personnel soignant qui sont à l'intérieur, qui peuvent déjà par un examen physique suspecter que c'est un cancer. Ça, c'est un. De deux, même la population peut voir. Il y a d'autres évoluent de cette manière-ci. Donc, vous allez constater tout simplement que le sein est en train de se durcir, de se rétrécir et ça devient dur comme du bois. D'autres, vous allez constater que le sein prend du volume, vraiment du volume. À un certain moment, ça éclate, ça donne une plaie. Et cette plaie-là, nous disons, c'est le cancer ulcéreuse. En ce moment-là, c'est sale et c'est nauséabond. Mmh. Et vous allez constater qu'au niveau des aisselles, vous avez ce que vous appelez, nous appelons ça des adénopathies, vous appelez ça ganglion. Donc ça, les amis qui sont à l'intérieur, le médecin qui sont là, si une femme constate cela, va voir le médecin, on va lui dire qu'il faut aller dans un centre mieux pour qu'on pose le diagnostic. Mmh. Quand elle parle de l'hérédité, oui, il y a des cas qui sont vraiment héréditaires que nous avions vécu de grand-mère, mère et petite-fille. Mais le cancer, théoriquement, on dit c'est une maladie qui prend le jeune femme à partir de 40 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. Mais dans la pratique, nous avions constaté que nous avions eu des malades de 6 ans, de 12 ans, de 15 ans et de 25 ans.
Mmh. Alphonse Boudril, depuis Arou, en province orientale, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. J'ai trois petites questions à vous poser. La première question est celle de savoir quelle est l'origine des cancers des seins, qu'est-ce que l'utérus. Deuxième question, est-ce qu'une femme qui a des cancers des seins, ses seins peuvent-ils produire des laits? Si oui, alors est-ce qu'à travers les laits, la femme ne peut-il pas être contaminée? Ou aussi, est-ce qu'on peut être contaminé à travers un contact simple avec les seins? La dernière question, est-ce que le cancer des seins peut attaquer l'homme? Parce qu'on trouve que chez l'homme, il y a une sorte de sang. Voilà, merci Jody.
Merci, docteur.
Oui, bon, je crois que l'auditeur est venu peut-être en retard, mais nous avions parlé de tout cela. La première chose, nous devons rassurer les gens que le cancer n'est pas contagieux. Ni par contact, ni si on a l'enfant est à l'aide. Mais en réalité, si nous constatons que la femme a un cancer du sein et qu'elle porte un bébé. La première instruction, c'est de ne pas allaiter cet enfant par mesure de prudence, mais ça ne se transmet pas par cette voie-là. Les hommes, nous avions dit que oui, les hommes font aussi des cancers du sein. Je parlais de l'hôpital général de Kinshasa où je disais, nous avons entre 12 et 15 hommes par an qui viennent pour le problème
du cancer du sein.
Il a posé une autre question là.
Voilà, donc il parlait de l'origine du cancer.
Oui, nous avions dit que les cancers, les causes ne sont pas vraiment évidentes, mais... la génétique nous renseigne que le cancer, c'est une maladie génétique. Ce sont des gens prédisposés qui ont les allèles qui les disposent à cette maladie-là.
C'est ça. Alors, nous recevons à présent Berry Franklin Luchaka qui nous apporte les questions des auditeurs, réactions des auditeurs sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Berry, encore une fois, bonjour.
Bonjour Jody, je dois vous dire qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui sont en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Nous avons recueilli quelques réactions, notamment celle de Hervé Caliste de Kinshasa qui nous fait savoir que en ce qui est du cancer du col de l'utérus, il existe déjà un vaccin contre le HPV qu'on prescrit chez toute fille de 13 ans avant le début des activités sexuelles. Peut-être l'invité peut nous confirmer cela. Mmh. Et puis Mimi Nkoulou dit « Mieux vaut prévenir que guérir, la femme africaine n'aime pas voir son gynécologue le plus souvent. » Voilà.
D'accord, merci. Alors docteur, parlons à présent du cancer du col de l'utérus. Vous avez dit qu'il y a de plus en plus de cas, vous recevez de plus en plus de cas de cancer du col de l'utérus à l'hôpital général de Kinshasa.
Oui, nous, à notre niveau, nous recevons les cas de col de cancer de l'utérus en seconde main parce que d'abord, ils passent par les gynécologues. Les gynécologues nous les adressent pour la chimiothérapie. Mm. En fait, réellement, ces derniers temps, on a mis en évidence ce vaccin-là qu'on est en train de donner, mais il nous faut un peu de temps de recul pour apprécier réellement ce qu'il y a parce que tous les cancers du col ne viennent pas des herpès virus ou des chlamydia. Donc, il y a d'autres.
Et certains parlent du papilloma virus.
C'est ça, mais il y a d'autres origines aussi. Donc, parce que, comme je disais, une prédisposition, c'est une prédisposition. Et ce virus, c'est là où les papillomas favorisent justement l'éclosion de ces cancers du sein. Et de ce cancer,
du col de l'utérus.
Le col utérin. Mm. Mais en réalité, le cancer de col utérin, ça se manifeste d'abord. La femme constate elle-même, pendant ses toilettes intimes, que c'est que dès qu'elle fait la toilette intime, elle commence à saignoter un peu. Et puis, à un certain moment de l'évolution, il y a la douleur, il y a l'amaigrissement, et constate même que dans sa vie, il est très, très, très difficile maintenant de mener une vie sexuelle correcte. Mmh. Et à la fin de tout, c'est une hémorragie vaginale qui se présente. Et l'attention doit être portée ici, surtout sur le moment qu'ils sont ménopausés, donc qui ne voient plus
les règles.
Oui. Mmh. Dès qu'elle constate. Et il y a une hémorragie vaginale, elle doit rapidement consulter. Elle ne doit pas dire que c'est le retour des règles. Non, ça c'est dangereux. Quand elle constate ça, c'est vraiment un signe d'appel qu'elle doit consulter les gynécologues.
Alors docteur, on a appris que le cancer fait souffrir tellement les malades, plus que même le VIH-Sida, parce que la douleur est tellement intense.
Quand vous vous trouvez devant un cas de cancer très avancé, et nous les répétons aux malades. À un certain moment, vous pouvez même vous dire que vous êtes dépassé. À un certain moment, vous rendez compte que vous ne servez plus à rien. Parce qu'à un certain stade, vous êtes un peu découragé. Et la phrase qu'on répète souvent, c'est dit, pourquoi vous venez souvent en retard? Pourquoi à ce stade-là, vous ne pouvez plus rien faire que de donner des soins palliatifs? Qu'est-ce que nous faisons? C'est justement chercher par tous les moyens à arrêter cette douleur. Parce que la douleur est atroce dans les cas de cancer quand on atteint ce stade-là. Mmh. Parce que vous allez.
Stade
4, c'est 4. Le stade terminal. Et vous allez constater que la malade est en train de se tordre de douleur. Et parfois, nous utilisons les antidouleurs, mais
ça
ne marche pas. Et nous sommes obligés de recourir à la morphine. Bon, la morphine.
Parfois, la morphine, ça ne marche pas.
Non, la morphine, ce n'est pas tellement ça, ce problème. La morphine, c'est le problème d'habitude. Vous commencez par une petite dose, ça répond. Après une semaine, cette dose est dépassée. Il faut augmenter. Alors, en ce moment-là, vous allez augmenter, jusqu'à atteindre une dose létale et vous achevez votre malade. C'est ça le problème de la morphine.
Voilà. Et voilà, donc il y a une souffrance atroce, le malade souffre d'une manière atroce et parfois les médecins sont découragés, dépassés.
C'est ce que j'ai dit, dépassés, ouais, oui, parce que notre objectif dans ces cas-là, c'est de calmer ces douleurs par tous les moyens.
Oui.
Vous êtes sûr que la personne va mourir.
Mais docteur, depuis un moment donné, on évacue les malades vers l'Inde. Il semble que là-bas, la prise en charge est beaucoup plus meilleure qu'ici sur place.
Me dire peut-être que là, c'est plus équipé, c'est mieux équipé et tout ça, je suis d'accord. Mais à un certain moment, le malade part à l'étranger pour partir. C'est-à-dire, quand nous disons que le malade est au stade 4, il n'y a plus rien à faire.
Il n'y a plus d'espoir.
Oui, qu'il parte en Inde, qu'il parte en Afrique du Sud ou en Europe, souvent c'est la même chose. Parce que ce que nous manquons, parce que nous n'avons pas la radiothérapie, on va dire qu'on est allé pour la radiothérapie. Mais les chirurgiens, vous en avez. La chimiothérapie, nous en faisons. Alors, parce que les chirurgiens, nous en avons. Moi, je ne regrette pas quand je suis ici parce que les chirurgiens, ils sont là pour nous aider, pour extirper les tumeurs. Mais le problème, c'est que la seule chose que je regrette ici, c'est qu'aucun hôpital public de l'État n'est équipé d'un équipement de radiothérapie.
Il me semble qu'au centre Nganda, on peut en trouver.
Non, docteur Soul avait un appareil de radiothérapie, mais quand nous parlons du public, vous savez, le public coûte toujours un peu moins cher que le privé. Parce que là, on met à des prix un peu plus bas. Parce que la radiothérapie coûte énormément cher, plus que la chimiothérapie. Et ici, nous n'en avons pas. Ça, c'est un. Et dernièrement, l'appareil de centre Nganda posait un peu de petits problèmes. Ça chauffait et puis on reportait les séances.
Voilà, donc le traitement, la prise en charge coûte trop cher, la prise en charge du cancer.
La prise en charge du cancer coûte très très cher. Nous allons commencer d'abord par les investigations et dans la plupart des temps, nous avons des investigations biologiques et dans la réalité qui ne coûterait pas moins de 100 000 francs congolais. Maintenant, quand vous entrez dans les investigations complémentaires, c'est-à-dire la radio, le scanner, l'échographie, alors la mise est... Et là, pour faire les diagnostics, ça vous prend presque 250 à 300 000 francs congolais. C'est important pour notre population.
Et vous avez parlé de la biopsie, c'est quoi, docteur?
Oui, la biopsie, c'est-à-dire quand vous avez un cancer qui est accessible. C'est-à-dire que vous voyez que vous touchez, vous demandez au chirurgien de prendre une partie de cette tumeur-là, l'envoyer dans un laboratoire que nous appelons laboratoire d'anatomopathologie, et là, et ils vont, c'est ça le vrai diagnostic. À travers le monde, c'est que quand vous avez ce diagnostic-là, anatomopathologique, ça confirme que c'est le cancer, et l'anatomopathologiste vous dit quel type de cancer. Ça, c'est l'examen final.
Oui.
Mais, parfois, nous nous trouvons déjà que la maladie est avancée. Nous demandons au chirurgien, par exemple, d'enlever tout l'utérus ou d'enlever tous les seins, d'envoyer ça chez l'anatomopathologiste et le diagnostic que nous allons avoir ça après l'intervention chirurgicale.
Docteur, comment expliquer que jusqu'à aujourd'hui, la RDC n'a pas un programme national de lutte contre le cancer?
Oui, je crois que les amis qui sont en train de nous suivre, ça fera pratiquement plus de 5 ans, même plus, qu'on s'agitait pour avoir un programme de lutte contre les cancers, ce qui permettrait peut-être aux partenaires d'appuyer ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Ça, c'est un, il n'y a pas de programme. Ce qui fait qu'il n'y a pas une bonne coordination. Donc, on ne peut pas, en République démocratique du Congo, vous donner les statistiques de cancer comme le Congo Brazza. Les Congo Brazza ont une organisation et ils ont même le registre des cancers partout et ils connaissent que cette année, nous avons plus ou moins autant de nouveaux cas, ainsi de suite. Et ils déterminent les cancers les plus élevés ou les plus répandus dans leur république. Nous, l'organisation n'y est pas. Et peut-être chaque hôpital peut faire un petit statistique et qui ne représente pas.
Oui. C'est encore un problème ici en RDC. Alors, comment prévenir cela? Est-ce que vous avez parlé du dépistage à temps? À part le dépistage, est-ce qu'il y a le mode de vie, l'alimentation? Et docteur, comment les malades, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir?
Oui, en réalité, les gens s'inquiètent. Si je commence seulement par les deux cancers que nous avions parlé aujourd'hui, je crois que c'est le dépistage. Alors, le dépistage, dont le cancer du col utérin, donc là, ce n'est pas la même chose comme le cancer du sein, où le dépistage peut se faire plus facilement et c'est accessible. Tandis que dans le cancer du col, donc là, on fait des prélèvements. On prend des prélèvements et on fait la coloration de Papa Nicolas pour voir à ce stade-là si on trouve encore des cellules néoplasiques ou l'hyperplasie qui prédispose à un cancer. Alors, en ce moment-là, on doit garder cette femme-là sous contrôle médical tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour voir l'évolution de cette hyperplasie et tout ça. Donc là, ça s'est fait comme ça. Mais le cancer du sein, le dépistage est facile si les personnes sont bien averties.
Là, est-ce que l'alimentation a un lien avec le cancer, le type de, le mode de vie? Non.
Non, mais dans tout ce qui concerne la cancérologie, le grand problème, c'est le tabac et l'alcool. L'excès de tabac et de l'alcool prédispose ou favorise l'apparition de certains cancers.
Bien, docteur Mankoy Badjoki, médecin, chef des services d'oncologie à l'hôpital général de référence de Kinshasa, nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci, nous vous remercions aussi.